Chapitre 4, la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial. Cours 3, la naissance de la guerre froide, 1945-1953. Comment passe-t-on de la Grande Alliance à un nouveau type de conflit? A. 1945-1946, la fin de la Grande Alliance. 1. Le temps des compromis. La recherche d'une entente entre alliés perdure en 1945, dans les derniers mois de la guerre. Les Anglo-Américains ne sont alors pas hostiles à ce que l'URSS puisse gagner des territoires et former un glacis de sécurité sous son influence en Europe de l'Est. Toutefois, malgré les engagements démocratiques pris à la conférence de Yalta en 1945, l'URSS impose par la force des gouvernements communistes en Pologne ou en Bulgarie où l'armée rouge est présente. Mais Staline reste prudent et ne remet pas en cause les intérêts des États-Unis et du Royaume-Uni en Europe occidentale. 2. De la confiance à la défiance. Les relations entre les alliés se dégradent pourtant dès 1946. L'ancien premier ministre britannique Winston Churchill dénonce dans un discours très remarqué une Europe de l'Est opprimée derrière un rideau de fer. Le président des États-Unis Truman et ses conseillers sont désormais persuadés que la politique soviétique est marquée par une volonté d'expansion et non de sécurité. La guerre froide qui s'amorce est donc à la fois un conflit idéologique entre deux pays qui incarnent deux modèles politiques et économiques opposés et un conflit géopolitique entre des puissances qui cherchent à étendre leur influence. B. Le tournant de 1947. Les déclarations d'affrontement. 1. Truman et la doctrine de l'endiguement. En Occident, l'idée d'une Europe menacée par le communisme a un très fort retentissement. Truman y répond en mars 1947 quand il annonce l'engagement des États-Unis dans la défense du monde libre contre la tyrannie. Cette doctrine du containment est complétée par l'annonce d'une aide économique massive à l'Europe dévastée où la misère pourrait, selon lui, profiter aux communistes. Le plan Marshall de 13 milliards de dollars est adressé à tous les pays d'Europe, mais sous la pression de Moscou, les pays situés dans la sphère soviétique le refusent. 2. Le durcissement soviétique. À l'Est, la mainmise des partis communistes se renforce en 1947 dans un climat d'intimidation et de fraude électorale. En septembre 1947, pour consolider les liens entre les partis communistes de différents pays, notamment français et italiens, est fondé le Cominform, un organe de coordination politique. Andrei Jdanov, un des dirigeants soviétiques, déclare dans un discours très violent que le monde se divise désormais en deux camps, l'un impérialiste et agressif derrière les États-Unis, l'autre anti-impérialiste et formé de démocratie nouvelle derrière l'URSS. 3. L'Europe divisée. En février 1948, le coup de Prague montre que les communistes peuvent s'emparer du pouvoir sans heurts dans un pays de tradition démocratique comme la Tchécoslovaquie. C'est un choc pour les Occidentaux qui redoutent de voir ressurgir le spectre de la guerre. Dès lors, des pays d'Europe occidentale se lient par un accord militaire défensif, le pacte de Bruxelles, en mars 1948. En avril est fondée l'Organisation européenne de coopération économique, OECE, qui réunit les 16 pays bénéficiaires du plan Marshall. S'amorce ainsi la formation d'un camp occidental lié aux États-Unis face aux démocraties populaires d'Europe de l'Est, alliées de l'URSS. Seule la Yougoslavie de Tito rompt avec Moscou en juin 1948. Le rêve d'une sécurité collective sous l'égide de l'ONU s'effondre. C'est un monde coupé en deux, 1948-1953. 1. Le blocus de Berlin et ses conséquences. L'Allemagne, divisée et occupée par les Alliés, est un point crucial dans la montée des tensions entre les vainqueurs. Après la fusion des zones d'occupation occidentale, fin 1947, début 1948, Staline pense éviter la partition du pays en imposant un rapport de force par le blocus des zones occidentales de Berlin. Cependant, la détermination des États-Unis, qui ravitaillent la ville par un pont aérien de juin 1948 à mai 1949, fait échouer le blocus. L'escalade militaire a été prudemment évitée, mais cette crise précipite la fondation de deux États allemands, la RFA, République fédérale d'Allemagne, à l'ouest, et la RDA, République démocratique allemande, à l'est, en 1949. 2. La radicalisation de la confrontation. En Europe de l'Est, la soviétisation s'accélère avec les nationalisations, l'épuration politique et la répression. Les ouvertures économiques et culturelles qui subsistaient entre l'Est et l'Ouest se ferment. Le camp communiste est renforcé par la victoire de Mao Zedong en Chine en octobre 1949. En Occident, l'anticommunisme de l'opinion publique s'amplifie et l'Alliance Atlantique liant l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest est conclue en 1949. La bipolarisation est désormais en place. 3. La militarisation des alliances. L'explosion de la première bombe atomique soviétique en août 1949, puis la guerre de Corée, 1950-1953, réoriente la politique militaire américaine. La course à l'armement reprend, doublée d'un nouveau déploiement d'alliances militaires. L'Alliance Atlantique est dotée d'une organisation permanente, l'OTAN. Un traité est signé avec le Japon, un autre avec les pays de l'Océanie, en 1951. La guerre de Corée, très meurtrière, au moins 2 millions de morts, confirme les logiques de la guerre froide. Extension mondiale, affrontements militaires indirects dans des conflits régionaux et dimension dissuasive de l'arme atomique.